Jean-Antoine, il est l'heure de te lever. Jean-Antoine, il est l'heure de te lever.
Chaptail.
Chaptail.
L'interview du jour.
Actualité.
Biais d'humeur.
Revue de presse.
Micro couloir.
Ah, c'est compliqué à définir pour le coup.
C'est possible que les jeunes aient plus de vocabulaire que nous autres.
Ça veut rien dire.
Quelque chose de d'inouï dont on trouverait difficile terme.
Je sais pas moi.
On en apprend tous les fois que je le connais, mais je suis pas sûre.
Non, c'est ridicule, pardon.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission du Chaptime. Bonjour à tous les chroniqueurs.
Bonjour.
Bonjour.
On va parler dans cette émission de plusieurs sujets divers et variés. Je vous dis pas lesquels, comme ça vous êtes obligés de rester à écouter l'émission jusqu'au bout. Donc, n'hésitez pas à rester, vraiment, ça va être vraiment intéressant. Alex, qu'as-tu à nous dire aujourd'hui ?
Récemment, comme vous le savez, Donald Trump a assassiné un général iranien, ce qui a augmenté les tensions au niveau international. Sur Twitter, c'était l'euphorie. Et tout le monde s'est emballé à faire des vidéos ou des posts drôles sur la Troisième Guerre mondiale. Nous avons donc demandé à nos chers collègues lycéens ce qu'ils pensent de cette fameuse Troisième Guerre mondiale. Imagine qu'il y en ait une. Tu penses que quel pays se reposerait ?
Quel pays s'opposerait ? Je pense les États-Unis. Et les États-Unis, la Russie, et peut-être, ces deux pays. J'en vois pas trop
d'autres. Sous quelle forme aurait-elle lieu ?
C'est-à-dire sous quelle forme ?
Une guerre digitale ou une guerre physique ? Plus guerre froide ou plus affrontement direct ?
Un peu comme une guerre froide qui aussi utilise le digital pour faire la guerre, c'est-à-dire les cyberattaques, tout ça.
Que feriez-vous si jamais vous êtes appelé ?
C'est-à-dire si je suis appelé à aller sur le front ? Je sais pas trop.
Est-ce que tu trouverais ça normal ou est-ce que tu t'enfuirais ou je sais pas ?
Je trouve pas ça normal parce que y a quand même des gens qui sont. On a des militaires en France, donc j'ai envie de me dire. Ça fait un peu penser à la levée de masse pendant la Révolution française après. C'est-à-dire, une fois qu'on a guillotiné le roi de France, Louis XVI, ça fait penser à ça, quoi.
Ben voilà, merci beaucoup.
Merci. Pensez-vous qu'une nouvelle guerre mondiale puisse arriver ?
Avec Trump au pouvoir, ça c'est très possible parce que j'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas du tout ce qu'il fait.
Donc pour toi, contre qui les États-Unis se battraient-ils alors ?
L'Iran, là où il a fait. Je ne me souviens plus le nom du pays où il a fait assassiner le général. Je crois que c'est l'Iran, c'est ça ?
Donc ça serait quoi les enjeux de la guerre ? Ça serait le pétrole, le. Internet, ça serait quoi ?
Le pétrole en fait, parce que c'est une ressource fossile qui est utilisée pour la plupart des pays.
Et donc, tu penses que ça serait une guerre sous quelle forme ? Parce qu'il y a eu la guerre froide, c'était pas vraiment des affrontements. Il y a eu les guerres mondiales, bon, ça c'était plus des affrontements par contre. Ça serait sous quelle forme ? Digital ? La pression ?
J'irais un mélange des deux. Parce que. Certes, les États-Unis sont une force la plus puissante des armées au monde, mais je ne sais pas s'ils prendraient le risque de déclarer la guerre publiquement, en fait.
Et donc, avec quelle arme, du coup, ils feraient la guerre ?
Soit des armes classiques, soit la politique ou Internet, ou un mélange des deux.
Et si jamais il y a une guerre mondiale et que la France est impliquée ? Et si tu te fais appeler à combattre, qu'est-ce que tu fais ?
Franchement, je sais pas si j'y vais parce que pour moi, la France n'a pas à être impliquée. Certes, c'est un allié des États-Unis, mais comment dire ? J'ai l'impression que le gouvernement américain n'assume pas toutes les conneries qu'il fait.
Penses-tu qu'il y aura une Troisième Guerre mondiale ?
Sincèrement, oui et non. Parce que
Ils ont Trump a tué le général iranien, mais je pense pas qu'il y aura une troisième guerre mondiale.
Si il y en a une, dans quel pays s'opposerait?
Hein?
Quel pays s'opposerait s'il y avait une guerre mondiale justement?
S'opposerait? Ben je pense déjà la Suisse parce que ils sont neutres. Puis après, ben les pays pauvres au final et voilà.
Donc pas du tout les États-Unis ni l'Iran ou je sais pas quoi.
Ah contre. S'opposerait. Oui. Ah merde, j'avais pas compris ça. Mais ah ben oui, ben genre Russie, États-Unis, France vu qu'elle accompagne les États-Unis, et voilà, Italie et autres pays comme ça.
Quels seraient les enjeux de la guerre?
Les enjeux, ben rien. Enfin, il a tué juste un général, quoi.
Et avec quelle arme?
Avec quelle arme?
Je pense pas au début à d'armes nucléaires, mais si ça part très très dangereusement, oui, avec des armes nucléaires qui pourraient causer du danger à toute la population terrestre.
Et si jamais la France combat et que tu es appelé, que fais-tu?
Sincèrement, normalement, ouais, je suis italien, donc normalement je serais pas appelé, mais sinon j'irai à la guerre. Ou je me travestis.
Donc, pensez-vous qu'une nouvelle guerre mondiale puisse arriver?
Oui, c'est très probable au vu des tensions qu'il y a en ce moment dans le monde.
Donc, si justement il y en avait une, ça serait entre quels pays?
Bah, les plus puissants qui sont, enfin les plus puissants actuels, genre les États-Unis, ils sont bien, et la Chine, ça commence à monter aussi, donc je pense que ça serait un peu une guerre froide, mais pas froide.
Une guerre froide. Donc, ça serait quoi les enjeux?
Ah, les enjeux principalement économiques et politiques, je pense, comme toutes les guerres. Après ouais, peut-être genre asseoir une dominance sur le monde, genre un peu comme a voulu faire les États-Unis pendant la guerre froide, genre essayer de globaliser un peu tout le monde. Et là, bah je pense que ça va être ces deux côtés.
Et ça serait une guerre sous quelle forme? Parce qu'on a eu la guerre froide où il n'y avait pas vraiment de combat, et là ça serait quoi? Ça serait digital? Ça serait à ton avis?
Bah je pense que ça serait vachement une guerre indirecte, genre comme on a vu, genre les drones qui commencent un peu à émerger, tout ça, les missiles tête guidée, machin. Après c'est possible aussi que genre ça soit moins comme plus en Seconde Guerre mondiale, genre plus viser les civils pour atteindre les États en plein cœur, genre vous avez attaqué les civils, c'est pas bien, on se rend ou quoi. Après, je pense que ce sera une guerre moins idéologique que la guerre froide. Mais il y aura quand même un peu d'idéologie, mais ce sera vraiment beaucoup plus physique, je pense.
Remarque. Et du coup, il ferait la guerre avec quelle arme? Parce que t'as parlé de drones, mais est-ce qu'il y en aurait d'autres? Peut-être de la bombe atomique? Ou je sais pas.
Bah, pour l'instant, les bombes atomiques, c'est la dissuasion. Donc, s'il s'avère que genre le taux de tête nucléaire commence à augmenter dans le monde et tout, comme genre en Russie, je crois, il y en a plein déjà, et que ça viendrait à éclater, que s'il y en a un qui déclenche une bombe, là ça de la catastrophe. Mais bon, après, on n'en est pas là, donc ça va.
Et si jamais la France était en guerre et que tu te faisais appeler au front, ouais, tu ferais quoi?
Et ben, ça dépend. Qu'est-ce qu'on appelle aller au front? Genre, t'as allé au front, genre t'es en arrière, tu fais de la stratégie, ou tu vas au front, tu vas te faire défoncer alors que les ennemis sont à 3 mètres, tu vois. Mais je pense que je me chierais bien dessus et je ferais un malaise cérébral. Je buggerais en fait. Genre, je serais genre. Et je sais pas quoi faire.
Merci beaucoup.
Mais de rien, mais de rien.
Alors, pensez-vous qu'une troisième nouvelle guerre mondiale puisse arriver?
Moi, je pense que oui. Parce que vu toutes les actions, tous les mouvements qui se passent mondialement parlant, c'est assez mouvementé. Et plutôt orienté guerre. Du coup, c'est mouvementé guerre, quoi.
Quels seraient les enjeux?
Moi, je pense que ce serait des enjeux autour du réchauffement climatique, des problèmes de ressources. Ou alors, ce serait un déclenchement suite à des tensions un peu ambiguës entre deux pays, des services secrets, un peu des trucs qui se passent un peu...
un peu underground.
Sous quelle forme aurait-elle lieu ?
Alors, ce serait une guerre chimique et nucléaire. Genre une guerre chimique avec des virus qui sont répandus dans les pays, mais des virus hyper virulents.
Dans les eaux et tout ça, ouais.
Ouais.
Il y aurait des drones.
Ouais, il y aurait
genre,
des drones.
Ce serait des guerres, pas comme on les connaît, mais plus avec de la technologie où il y aurait plus une guerre sur le terrain, donc avec des drones, des militaires, des tanks, beaucoup de technologie pour éviter les pertes humaines. Et il y aurait une équipe d'informaticiens derrière qui pilote tous ces engins, je pense.
Avec des abeilles qui explosent et tout.
Ouais, ce genre d'abeilles un peu foireux. Okay.
Et donc ça serait très informatique, mais il y aurait peut-être aussi des attaques ou je sais pas.
Des attaques informatiques.
Ouais.
Des raids informatiques.
c'est ça, on diffuse des virus, on balance des espions, des... Mais on sait déjà faire ça. Tu vois, tu crées des sortes d'animaux avec des espions et tout ça, avec des sortes de caméras à l'intérieur qui se fondent dans le décor et tout ça. Et sans problème, ça passe, tu récoltes des infos comme tu peux, quoi. Beaucoup de hackage, non, de hack.
De hack.
Ouais, c'est ça, tu vas pirater la base ennemie et tout ça, quoi. Oui, exactement.
Et si jamais la France rentre dans ce conflit, que ferez-vous si jamais vous êtes appelé au front ?
Moi, j'irai pas.
Ouais, moi non plus, j'irai pas.
Moi, je pense que je partirai dans l'endroit le plus isolé du monde, genre chez nous et...
Je pense que ce sera... Si c'est une troisième guerre mondiale, je pense que ce sera une des dernières. C'est... On a trop de moyens pour détruire le monde. Là, avec le nucléaire, il y a tout qui saute. C'est...
Bah déjà, on a...
Déjà, on arrive à s'autodétruire, quoi.
C'est bon, quoi.
Là, il y a des feux en Australie,
du
c'est
coup,
la merde
pas.
Un peu partout. Je pense que... Non, nous, on n'ira pas.
Non, nous, on n'ira pas.
On ira créer des cabanes dans les arbres qui restent, je pense, un truc comme ça.
Ok.
Merci beaucoup. Ben, merci à nos chers collègues lycéens d'avoir réagi, et je te laisse la parole, Erin.
Merci, Alex. On pense à toi, Octave, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Maintenant, on change de rubrique. Diane, tu es allée faire un tour au lycée, faire un reportage, c'est ça ?
Oui, alors exactement. Donc on est allé interviewer le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, donc le CIDFF, qui a un bureau à Mende. Et donc du coup, ils se sont rendus à notre lycée pour faire un exposé sur l'égalité entre les hommes et les femmes, la lutte contre tous les types de violences et évoquer la vie affective et sexuelle. Donc voilà, on va écouter Claire, éducatrice spécialisée au CIDFF, sur sa venue. Du coup, qu'est-ce que c'est exactement le CIDFF et les initiales ?
Alors, c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Donc, c'est une association et qui a pour vocation première de connaître ses droits pour les faire valoir. Mais derrière, se sont étendues tout un tas de missions, et notamment la lutte contre les violences sexistes, l'égalité filles-garçons, la lutte contre les stéréotypes de genre. Voilà.
Et en Lozère, on en trouve beaucoup de ce genre de stéréotypes, de violences et tout ça, en termes de nombre.
Alors les stéréotypes, ils sont ancrés depuis longtemps, ils perdurent en Lozère comme ailleurs. Et sur les violences, ben oui, de la même manière, personne n'est épargné. Il n'y a pas de couche sociale, il n'y a pas de milieu particulier. Les violences ne sont pas forcément les mêmes d'une couche sociale à une autre, mais par contre, les violences au sein du couple, elles existent partout.
Comment on sensibilise à ces violences dans les écoles, lycées, collèges ?
Ben, ce que j'ai fait aujourd'hui, alors on intervient depuis très longtemps dans les établissements, dans les lycées, depuis quelques années sur les collèges, et depuis très peu, depuis 2-3 ans, on commence à intervenir aussi au niveau du primaire. Donc l'idée, c'est effectivement, dès le plus jeune âge, commencer à sensibiliser à ces stéréotypes de genre qui enferment dans des cases, et pouvoir permettre justement aux jeunes de grandir autrement, de s'en extraire petit à petit, parce que ces stéréotypes nous formatent.
Et du coup, lors de votre intervention aujourd'hui, de quoi avez-vous parlé, grosso modo ?
Alors, l'intervention d'aujourd'hui, c'est un programme région, donc la région Occitanie, qui s'appelle Génération Égalité, voilà, où on intervient à destination de tout ce qui est post-troisième, donc seconde, mais aussi CAP, les enseignements, les filières plus courtes. Et l'idée, c'est de sensibiliser tous les jeunes de cet âge-là à trois axes, donc la lutte contre les stéréotypes de genre, en parlant de l'égalité entre les filles et les garçons, la lutte contre les violences sexistes, et les violences conjugales, du coup, par déclinaison. Et puis, le dernier axe étant la vie affective et sexuelle.
Et donc, du coup, là, par exemple, dans le thème des violences, alors les plus communes et les plus connues sont les violences physiques et les violences verbales. Mais en existe-t-il d'autres qui soient tout aussi présentes et tout aussi importantes et...
Alors, il y a plusieurs types de violences. Il n'y a pas de violence sans violence psychologique, déjà. Voilà. Il ne peut pas y avoir une violence exercée sans que ça ait un impact sur la psychologie, sur la détresse. Donc, dès qu'il y a violence, il y a au minimum des violences psychologiques. On a décliné aujourd'hui, pendant l'intervention, toutes les formes de violences sexistes qui peuvent exister. Alors, au sein du couple, on peut retrouver effectivement les violences physiques, psychologiques, sexuelles et administratives. Hein, le fait de priver, par exemple, son conjoint ou sa conjointe d'accès à l'argent, à l'emploi. Voilà. Mais dans les violences sexistes, il y en a plein d'autres, notamment des mutilations sexuelles, le mariage forcé, le harcèlement sexiste, la traite des êtres humains, donc les réseaux de prostitution, tout ça, ce sont aussi des violences dont on a peut-être moins conscience dans les établissements scolaires, parce que voilà, en Lozère, la prostitution, on ne la voit pas, elle est un peu plus cachée. Le mariage forcé, on n'a peut-être pas conscience qu'il y a encore des mariages forcés. Mais voilà, oui, toutes ces violences ont été évoquées.
Comment peut-on aider des victimes, ou comment on peut faire changer les choses?
Alors déjà, la première chose, c'est la parole. Voilà. Donc nous, le CIDFF, et il y a tout un tas de plateformes téléphoniques. L'objectif, c'est de permettre d'ouvrir la parole, que les gens parlent. Et ensuite, il y a des associations telles que les nôtres, avec des professionnels qui sont là pour accompagner et aider les personnes avec techniquement, des aides, enfin, du soutien soit juridique, puisque là, il y a des lois, il y a la possibilité de porter plainte, et puis aussi des accompagnements plus pratico-pratiques avec des hébergements, voilà.
Là, par exemple, vous avez parlé donc du cycle de la violence dans un couple. Oui. Et est-ce que vous pensez, notamment dans ces solutions, que le couple peut sortir de ce cycle de la violence ensemble, ou est-ce que la seule et unique solution, c'est de séparer ces deux personnes ?
Alors, parfois, la séparation n'est pas nécessaire. Parfois, il y a une prise de conscience. Lorsqu'on est dans un cycle établi, si l'auteur des violences a une vraie prise de conscience et souhaite changer, il peut se faire aider, le couple peut se faire aider, et là, ça peut changer. Par contre, très souvent, ce sont les victimes qui demandent à leur auteur de changer, c'est pas une volonté de l'auteur de changer, donc dans ce cas-là, ça ne peut pas marcher.
Du coup, par rapport à ce sujet, vous, autour de la table, est-ce que vous pensez que cette égalité homme-femme ait été atteinte, alors soit en France, soit dans un autre pays
Pour l'instant, je pense qu'elle n'a toujours pas été réellement atteinte en France. Mais il y a toujours moyen. On ne pourra jamais atteindre, je pense, personnellement, une réelle égalité parfaite des deux sexes. Mais je pense qu'on peut améliorer la situation qui est actuellement en France. Voilà.
Pour rejoindre ce que dit Jocelyn, moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès depuis, par exemple, la société d'après-guerre et tout. Mais qu'il y a encore énormément de progrès à faire, notamment au niveau du salaire et puis même au niveau des comportements sociaux qu'on adopte envers les femmes, tout simplement. Je pense qu'il y a encore énormément de progrès à faire.
Aurore, tu veux rajouter quelque chose ?
Ouais, j'aimerais bien. Ouais, c'est sûr que l'égalité homme-femme en France n'a pas été atteinte, mais il y a quand même beaucoup d'efforts à faire, ça c'est sûr, encore une fois. Mais c'est possible. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment possible, parce que ça a beau être tellement banalisé en France, cette violence souterraine et cette inégalité qui reste à cause du langage, des salaires, comme Kenel disait, et encore beaucoup d'autres choses, par exemple les violences faites aux femmes, qui sont encore largement majoritaires face à celles aux hommes, même si c'est vraiment pas comparable. Et ça devrait changer, mais pour le moment, ça l'est pas. C'est pas atteignable pour le moment, vu comment on avance et comment ça se passe et comment les mentalités sont.
Vous avez déjà un peu répondu à cette question, mais est-ce que vous pouvez aller un peu plus profondément sur le fait, est-ce que cette égalité peut être atteinte ?
Eh bien, je pense pour moi que c'est pas une histoire d'être atteignable ou tout ça, c'est toujours une suite de progrès qui vont amener à un moment où on aura quasi une égalité totale et parfaite. C'est-à-dire que ça fait depuis très peu de temps, pas réellement très longtemps. Historiquement, c'est très récent qu'on commence à accorder de plus en plus de droits aux femmes dans les sociétés actuelles. Voilà.
Excusez-moi, mais pourtant, pendant l'Empire mongolien, par exemple, les femmes avaient énormément de droits. Donc ça a été ancien, mais dans notre société peut-être contemporaine.
Je parle plutôt au niveau occidental. Pour l'instant.
Mmh. Oui, mais même au niveau occidental, si on veut prendre un exemple en France, en Gaule, on pouvait voir qu'il y avait des femmes chefs. Dans les villages, les femmes pouvaient être chefs. Dans des grandes tribus aussi, on a eu des femmes chefs. Et pourquoi ce serait pas possible l'égalité parfaite ? Je comprends pas. Enfin, c'est quelque chose qui pourrait être atteint, même si ça va être dur et ce sera long. Enfin, les derniers chiffres que j'ai vus, ce serait sur l'égalité salariale. Comme ça avance sur les 10 dernières années, ça prendrait 100 ans à peu près pour atteindre l'égalité salariale, par exemple. Et pareil pour le nombre de femmes au pouvoir. À l'Assemblée, on a moins de 50% entre nos genres de femmes. Donc c'est possible, mais ça prendra du temps. Et il faut juste que les choses bougent et qu'on s'habitue à ce changement, je pense.
Et est-ce que vous pensez que seule l'éducation dans la famille peut être à l'origine de tous ces changements, ou y a-t-il peut-il y avoir d'autres facteurs ?
Moi, je pense par exemple que beaucoup de choses qui sont dues au sexisme et qui le sexisme est dû, ça vient bien sûr de l'éducation, mais ça vient aussi de l'univers dans lequel on grandit. Par exemple, à la télé, à Noël, on voit pour les filles, on va prendre des jouets en rose, et pour les garçons, on va prendre des jouets en bleu. Même si c'est des trucs comme ça, tout con, je pense que ça fait beaucoup, quand t'es enfant, de grandir dans ça. Et justement, d'être élevé toujours avec cette idée qu'il y a des trucs préconçus pour les femmes et des trucs préconçus pour les mecs.
Aurore, vas-y, oui.
Mais après, l'enfance, c'est une chose, ça nous forme, ça fait des bases. Mais l'adolescence, justement, c'est se séparer des bases et de commencer à s'émanciper de la famille. Donc, ça pourrait totalement être... au final, c'est dû à une certaine base à l'éducation dans la famille, mais il y a aussi, faut pas oublier que l'enfant et l'adolescent ne dépend pas totalement de sa famille et va trouver d'autres centres d'intérêt à l'extérieur et le sexisme pourrait se dissiper, ou je sais pas, enfin ces bases-là pourraient se dissiper avec l'adolescence, même être adulte, c'est avoir de nouvelles expériences et de voir de nouvelles choses, donc c'est sûr que des bases sexistes ne vont pas pousser quelqu'un vers quelque chose de plus égalitaire, mais il y a quand même des chances pour que ça se produise. On se sépare de la famille.
D'accord, merci. Et alors, dernière question. Alors oui, on parle souvent de l'inégalité entre hommes et femmes, et les femmes en sont victimes, mais les hommes sont-ils également victimes d'une certaine inégalité ? Vas-y, Aurore.
Oui, c'est évident, puisque chaque propos sexiste pour une femme est aussi valable pour un homme. Par exemple, une fille qui ne fait pas de foot, un garçon qui ne fait pas de danse. On est tellement restreint dans notre genre qu'au final, on finit par enfermer tout le monde dans des cases à cause d'un sexe.
Eh bien, merci à tous pour ce débat. Et toi, Kenna, c'est quoi ta vision de la vie ?
Eh ben, pour citer Kian Kojandi dans Bref, dans la vie, on naît, on meurt, et entre-temps, il se passe rien. Et c'est sur cette citation vraiment très optimiste que je commence ma chronique. Depuis longtemps, un questionnement subsiste au sein des membres de l'espèce humaine. Quand est-ce qu'on mange ? Ah non, merde, je veux dire, quel est le sens de la vie ? Moi-même, je me suis longtemps posé cette question sans jamais trouver de réponse universelle. Par exemple, moi je pense que la vie, c'est quelque chose de court, et donc bien sûr qu'il faut profiter à fond et faire tout ce qu'on veut, quitte à se faire des ennemis. Personnellement, je veux pas vivre vainement, c'est-à-dire que mon existence tombera dans l'oubli et personne ne se souviendra de moi. Mon objectif, c'est de marquer les esprits, changer le monde, sinon qui le fera ? Enfin, ça c'est quelque chose que je pense, il faut briser les codes, changer les mentalités, apporter quelque chose. Je trouve ça intéressant de se sentir libre dans ses choix et dans la vie que l'on mène. J'ai toujours admiré les personnages de films qui changent de vie du jour au lendemain, prennent un bus dans une autre ville et recommencent tout. Je pense que c'est ça la liberté, faire ce qu'on veut quitte à rendre des gens tristes. Ayant des amis moins optimistes que moi, je me suis interrogé sur leur vision de voir la vie. Alors, je vais poser quelques questions à notre jeune amie qui est Aurore. Alors, bonjour Aurore, toi, comment tu vois la vie ?
Alors, comment je vois la vie ? C'est une question que je me suis souvent posée parce que je suis bloquée dans ma vie au final. Et moi, je vois ma vie de telle sorte que chaque jour est une étape pour aller vers ce que je veux. Même si ça va être long, si on est un peu enfermé dans notre quotidien, si le lycée c'est pas forcément toujours cool, et qu'on on se fait très souvent chier quand même, parce que c'est. Mais tout ça n'est qu'une étape pour réaliser un objectif. Et on subit un peu, mais c'est quelque chose de nécessaire au final.
Et toi, quel est ton objectif ?
Mon objectif ? Je pense que trouver un métier qui m'irait, genre journaliste, je sais pas pourquoi, comment. Non. C'est un peu devenir journaliste parce que j'ai pas besoin de me justifier en fait. Non, je veux juste être journaliste.
Et pourquoi voilà. Pourquoi le métier de journaliste te plairait ?
Parce que ça fait très longtemps que je fais de la radio ici et que j'ai beaucoup aimé ça, que c'est quelque chose qui me passionne, mais vraiment, et que c'est le seul truc au lycée sur lequel je travaille vraiment, et que c'est quelque chose que je vois pas passer, que la vie devient plus rapide. C'est comme quand c'est une après-midi avec des amis et que, bah, en fait, c'était une journée, mais c'était une heure. On l'a ressenti comme une heure et que moi, je le vis comme ça et que peut-être que ma vie, je la ressentirai plus rapidement, mais ce sera mieux que si je le subissais.
D'accord, donc c'est un peu ce qui te motive dans la vie. D'accord, je comprends. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Aurore. Après, je suppose que vous avez tous entendu parler d'une prétendue troisième guerre mondiale. J'ai vu plein de gens en parler sur les réseaux sociaux, même Alexandre tout à l'heure, en disant qu'ils voulaient aller se battre et défendre leur pays. Je trouve pas ça génial que de vivre pour servir son pays et aller à l'armée, mais mon ami Lenny, que je vais interviewer tout de suite, pense le contraire. Alors Lenny, toi, ce qui t'intéresse, c'est l'armée.
Ouais, totalement, ouais.
Tu pourrais m'en dire plus ?
Bah, j'aimerais rentrer dans l'armée de l'air après mes études. Enfin, je vais essayer d'avoir un bac le plus facilement possible. Je vais partir en STMG l'année prochaine. Et ensuite, je vais aller dans l'armée de l'air en tant que fusilier parachutiste.
Ça consiste en quoi ?
Bah, c'est dans le titre. En fait, t'es parachutiste et t'es envoyé sur les terrains. Ou alors, tu restes à la caserne pour surveiller tout ce qui se passe autour.
D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui te passionne là-dedans ?
Bah, je sais pas, c'est un métier qui m'a un peu toujours passionné dans l'armée. Enfin, au début, je voulais aller dans la gendarmerie. Après, je me suis un peu renseigné et je me suis dit que l'armée, c'était peut-être mieux. Après, c'était la vocation de mon père au début. Et au final, à force qu'il m'en parle, j'ai un peu repris la passion de l'armée, quoi.
D'accord, je comprends. Eh ben, merci beaucoup, Lenny. Après cette interview riche en armes à feu et en massacres de masse, j'ai trouvé très intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un ayant des ambitions, comment dire, un peu plus scolaires. C'est pour ça que je vais interviewer mon compère de toujours, j'ai nommé Jocelyn. Alors toi, Jocelyn, tu as plus des ambitions qui s'étendent sur la durée et de manière scolaire. Genre en faisant des études. Saut 2010, mais passons. Tu peux m'en dire plus ?
Alors, moi, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est, du coup, comme tu viens de le dire, effectivement, des études, du coup, c'est plus scolaire, mais ça va permettre de me faire un objectif sur la durée, d'avoir une ambition, quelque chose comme ça. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est avoir un doctorat en ingénierie informatique spécialisé sécurité web, ce qui me permettrait d'entrer dans des métiers avec un salaire un petit peu aisé, on va dire. Et c'est vrai que ça m'intéresse tout particulièrement, moi qui suis grand fan de ça, de l'argent. Et du coup, c'est pour ça que j'aimerais beaucoup avoir une scolarité très longue pour avoir un gros background au niveau de mon CV.
D'accord, donc toi, Jocelyn, ce qui te plaît le plus, c'est l'argent. Bon, grâce aux interviews d'Aurore, Lenny et Jocelyn, nous avons de nouveaux points de vue sur la vie, mais tous s'accordent sur le fait de suivre ses rêves et ses envies en fonction de ce qui nous plaît. Je pense donc que le sens de la vie, c'est au final faire ce qui nous plaît et au diable le reste.
Eh bien, merci à vous tous. C'était fort drôle. Donc, toi, Aurore, tu as fait un truc sur les addictions. Tu peux nous parler de tes addictions, s'il te plaît ?
Ok, moi, avec Kenna et moi plutôt, excusez-moi, on a choisi de parler de cocaïne. Pourquoi donc, on se demandera ? Parce que on a eu beaucoup d'intervenants comme Kamel qui sont venus parler de drogue et j'ai trouvé que la cocaïne était un bon sujet pour parler de drogue. Car cette drogue, du coup, a une image très de fête. On a une image de trafiquant, de richesse. Et je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de voir quelle était la vie des gens au CHAP et comment elle s'est créée dans l'imaginaire collectif, qui en prend et quels sont ses effets. On peut écouter les gens du CHAP pour savoir ça.
Personne anonymisée, numéro 82. Qu'est-ce que tu penses de la cocaïne ?
C'est une drogue et c'est mal, mais sinon je n'en pense rien du tout, en soi.
Merci beaucoup.
Non. Quelle est ton image de la cocaïne ? Quand tu penses à cocaïne, tu penses à quel effet ? Quelle personne ? Pas dans tes proches, parce que je veux pas savoir ça. Et est-ce que c'est nocif ou pas ? Enfin, pour toi, c'est quoi ?
Pour moi, c'est une drogue. Je pense que c'est très nocif. À quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à... C'est juste parce qu'on l'a étudié il y a pas longtemps, Pablo Escobar, mais sinon... Je sais qu'il y a des gens dans Montpellier qui en prennent la nuit et des gens dans mon quartier aussi. C'est très bizarre. Mais voilà.
Donc, selon toi, quels sont les effets que peut provoquer un rail de cocaïne ?
Ces effets ? Wow, j'en sais rien du tout. À part ce que j'ai entendu dire et ce que j'ai lu, mais vu que j'en ai jamais pris, je ne sais pas. Je sais juste, d'après ce qu'on m'a dit, que ça a des effets... Bah, du coup, très néfaste et que ça peut rendre assez parano. Et puis, c'est très facile d'y devenir addict.
Bonjour Iris, que penses-tu des personnes qui prennent de la cocaïne et comment vois-tu de la cocaïne?
Les gens qui prennent de la cocaïne, je pense, si t'es une star des années 70 et que tu meurs à 27 ans d'une overdose, c'est assez stylé. Mais après, si t'es dépressif, que tu prends ça en pilule et que tu te shootes tout seul chez toi, ça doit pas être super rigolo. Voilà.
Qu'est-ce que la cocaïne fait sur le cerveau de ceux qui en prennent, à ton avis?
Il me semble qu'il y en a deux sortes et qu'il y en a une qui va te plonger dans des réflexions assez cheloues et une autre qui va te pepser, ça veut rien dire, c'est pas un verbe. Te booster, ouais, c'est ça. Mm. Et en fait, je sais pas énormément de choses.
Et donc, quel serait le portrait robot de quelqu'un qui prend de la cocaïne?
Ça peut être n'importe qui, ça peut être un fêtard, juste lycéen qui aime bien s'amuser, bien s'amuser à des soirées et qui en prend comme ça de temps en temps. Et puis ça peut être quelqu'un qui vit punk à chien, qui en prend, qui se ruine pour en avoir et qui du coup est à la rue ou en délire comme ça. Voilà.
Moi je pense que cocaïne, ça fait d'énormes dégâts sur la santé, sur le mental, et déjà pour s'en sortir par rapport au cannabis, je pense que c'est beaucoup plus difficile, qu'il y a moins d'issues et que même s'il y a quand même du personnel pour t'aider à t'en sortir, c'est toujours difficile de rentrer dans un club, enfin un centre pour te faire soigner. Et que la cocaïne, c'est vraiment un cercle vicieux.
Mais quelles informations te permettraient de dire ça, toi?
Notamment des interventions qu'on a eues tout au long de notre scolarité sur la prévention. Puis aussi des entourages qu'on a qui... la plupart des gens, on connaît forcément quelqu'un qui fume ou qui boit et qui fume aussi du cannabis, mais on connaît rarement des personnes qui prennent de la cocaïne ou des extasies, voilà.
Moi, je pense que la cocaïne, en fait, ça a une plus mauvaise image que, par exemple, la beuh, parce que la cocaïne, j'ai l'impression que c'est plus, comme on dirait, les punks à chiens ou je sais pas trop quoi, qui en prendraient, alors que la beuh, c'est plus général. J'ai l'impression que quand on en parle, c'est comme si on parlait du temps. Alors que quand on parle de la cocaïne, c'est un mot dur, quoi. Direct, on pense à droguer. Voilà.
Mais tu penserais pas qu'à l'inverse, ce serait plus des gens de type de la haute société qui prendraient de la cocaïne, comme des hommes d'affaires ou des grandes stars?
Ça dépend, parce qu'il y en a qui veulent donner peut-être une bonne image aux personnes, donc ne pas devenir dépendant, parce que c'est très compliqué de s'en sortir. Et t'as un peu une vie de merde, quoi. Mais il y a différentes personnalités. Peut-être qu'il y en a qui se disent c'est une bonne image de faire le mec défoncé, à prendre de la cocaïne, de la beuh, tout ça.
Alors, petite précision, Irine, on ne va pas parler de mes addictions, sinon on ne parlerait que café clope, du coup c'est pas super intéressant, mais on va parler de l'addiction à la cocaïne.
Quels sont les effets de la cocaïne sur l'organisme et le cerveau des gens?
La cocaïne est un psychoactif qui va augmenter l'affluence psychique, c'est-à-dire la rapidité de l'esprit, et qui va avoir au moins sur le cerveau une incidence qui va provoquer des troubles du sommeil majeur, avec des troubles du rythme cardiaque et une accélération de l'ensemble du système. Autre incidence, ça va provoquer une dépendance rapide.
Et sur le long terme?
Sur le long terme, on va avoir des troubles de la mémoire, des compétences intellectuelles réduites, une agitation, une irritabilité, tout ce qui est lié aux effets de la dépendance et de l'accoutumance. C'est-à-dire, augmentation des doses pour avoir le même effet.
Existe-t-il des troubles psy liés à la cocaïne?
Comme d'habitude, il y a souvent des comorbidités, c'est-à-dire des maladies associées aux toxiques. On va souvent avoir une dépression qui va être soignée par ce genre de système psychoactif, où on peut avoir des troubles de l'attention, des personnalités pathologiques antisociales,
les troubles bipolaires également, qui vont user assez régulièrement de ce genre de toxique pour éviter les variations de l'humeur. Ça leur permettra de gérer les variations de l'humeur à défaut, puisque de toute façon, avec les troubles du sommeil, ça ne serait que les aggraver.
Comment soigner cette addiction ? Est-ce que ça fonctionne ? Y a-t-il des rechutes fréquentes ?
Comme la plupart des addictions, les soins fonctionnent. Il y a une partie qui peut être de l'analyse transactionnelle, c'est-à-dire essayer de voir quels sont les réseaux, comment ça fonctionne. Par exemple, la relation entre la personne dépendante et le dealer, qui doit être étudiée. La relation familiale, donc ça va être un travail systémique qui va se faire autour de la famille, autour des proches, en tentant un discours motivationnel. Il y a une partie qui peut être travaillée dans les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. Et les deux ont montré leurs effets dans plusieurs études internationales. Après le sevrage, on peut avoir une post-cure pour consolider. Mais il faut bien se dire que la rechute est plutôt fréquente. Parce qu'il est souvent difficile, malgré un discours sur le changement, d'arriver à percevoir la personne, puisque les autres ne veulent pas forcément changer. Ces systèmes sont finalement tellement enquistés et faciles d'accès que la rechute est très fréquente.
Et la loi, qu'est-ce qu'elle dit ?
En France, la cocaïne est classée comme stupéfiant 4. Comme on pourrait s'en douter, la vente, la détention et la consommation de cocaïne sont punies par la loi. Mais que risque-t-on ? Sa consommation est passible de 1 an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Sa vente est passible de 5 ans d'emprisonnement.
Dans le rap français, on ne retrouve pas tellement de cocaïne que ça, mais voyons ce qu'un ancien polytoxicomane en dit, lui.
Bonjour. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Ouais, je m'appelle Kamel, je suis partie d'une association qui s'appelle Apica, avec laquelle je suis là aujourd'hui à Mende.
Comment vous avez commencé la cocaïne ?
Moi j'ai commencé pour faire comme mes copains, voilà, je le dis franchement. Moi c'est surtout, pour moi j'avais toujours entendu dire que c'était une drogue qui était festive, et en fait elle est tout sauf festive, c'est clair.
Et du coup, quels sont les effets ressentis quand on prend de la cocaïne ?
La cocaïne, c'est une dépendance qui est psychologique. Il n'y a pas de dépendance physique. Ça veut dire que les gens sont dépendants de l'effet de la cocaïne. Donc en fait, c'est comme les effets, c'est comme pour les autres drogues en fait. C'est qu'au début, t'en prends pour être bien, puis un jour, t'en prends juste pour pas être mal en fait. C'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça le problème de la cocaïne, c'est que ça va tellement vite. Et surtout, c'est un produit qui est éphémère, c'est-à-dire que ça dure pas longtemps. Donc en fait, pour il faut multiplier les doses, multiplier les doses. Donc inévitablement, te foutre dans la merde avec tout ce qui va avec.
Qu'est-ce que c'était vos fréquences de consommation à l'époque où vous en preniez ?
La cocaïne, c'est toutes les 3 heures, c'est toutes les 2 heures. C'est ça le problème de la cocaïne. C'est pas comme l'héroïne, quoi. L'héroïne, c'est un produit qui va te poser, tu vas en prendre 3 fois dans la journée, quoi. Alors que la cocaïne, c'est voire même toutes les heures. Moi, je vois les gens qui fument du crack, c'est toutes les heures, même pas. C'est parce qu'en fait, l'effet est éphémère. Donc, ça dure pas longtemps. Donc, en fait, et plus ton corps s'habitue, moins l'effet dure longtemps. Donc, plus faut en prendre.
Et du coup, comment elle s'est ancrée dans votre quotidien ?
Bah, moi, c'est pour, elle s'est ancrée parce que j'avais déjà des problèmes à la base. Donc, il y avait un terrain favorable pour que le produit accroche.
Vous en avez déjà un peu parlé pendant l'intervention, mais quel est le rapport au dealer en tant que consommateur ?
C'est-à-dire ?
Le rapport que le dealer instaure, le rapport qu'on subit.
Le dealer, il est là pour faire de l'argent. Il est là pour faire de l'argent, le dealer, lui. Ce qu'il va faire, c'est très bien, le dealer, le but, c'est quoi ? C'est t'accrocher. Plus tu vas t'accrocher au produit, plus tu vas revenir en prendre. Donc voilà, c'est ça le but du dealer. Le mec, il est là pour faire de l'argent. Est-ce qu'il y a un groupe ? Moi, j'aime bien qu'on en parle des dealers, parce qu'effectivement, le premier dealer que tu rencontres, c'est quand même quelqu'un qu'on connaît super bien. C'est pas le dealer de cigarettes américaines. Et ça, je trouve ça important de le dire. Parce qu'il y a trop de jeunes qui se disent, ouais, mais moi, tant que je le vois pas arriver, les grands blacks avec son sac à main, ou son sac à Nike et tout ça. Non, ça marche pas comme ça. Le premier dealer que tu vois, c'est quelqu'un que tu connais parfaitement. Mais parfaitement. Voilà. Et pour la cocaïne, c'est exactement la même chose. Souvent, c'est présenté un peu comme une drogue festive. Sauf que franchement, c'est plus festif, la cocaïne. C'est festif quand t'es au tout début que t'en prends, machin, c'est festif, mais très vite ça devient plus festif du tout. C'est clair, c'est plus du tout festif. Moi, les gens que je vois, je te garantis que c'est plus festif depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Ils sont en train de vendre leur bar, en train de vendre leur boîte, en train de foutre leur mariage en l'air, en train de tout foutre en l'air. Là, il y a un mec, il y a pas longtemps que je voyais, ses parents m'ont appelé, il a mis 34 000 euros dans la cocaïne en 4 mois, tu vois, et il voyait pas où était le problème. Hein. Et une fois qu'il a eu tous ses relevés de compte sous les yeux et qu'il a vu qu'il déplaçait 500 euros quasiment tous les jours, il a fait pas se rendre compte qu'il avait un problème d'addiction, quoi. Mais tant qu'il a pas eu ça sous le nez, il s'en est pas rendu compte. C'est ça la cocaïne, c'est que tu vois rien en fait. Tu vois rien. Quand t'es dedans, tu vois rien. Tu gères. C'est ce que tu dis, je gère.
Mais du coup, vous en avez parlé pendant l'intervention, mais comment et pourquoi vous avez arrêté la cocaïne ?
Moi, j'ai arrêté pour mes enfants. Moi, c'est pour mes enfants que j'ai arrêté. Voilà. De toute façon, moi j'ai arrêté toutes les drogues en même temps en fait. J'étais polytoxicomane et quand j'ai arrêté, j'ai tout arrêté. Voilà. Je ne voyais pas l'intérêt d'arrêter une drogue ou leur remplacer une drogue par une autre. Je ne voyais pas l'intérêt. Quand j'ai arrêté, moi, j'étais polytoxicomane. Ce que je cherchais, c'est un état à la fin de la journée. Quel que soit le produit qui pouvait m'emmener à cet état, je m'en fichais. Ça peut être de la coke, ça peut être de l'héros, ça peut être de l'alcool. L'alcool, c'est gratuit, c'est accessible, il y en a partout. Donc quand j'avais pas d'argent, je prenais de l'alcool.
Est-ce qu'à un moment, quand vous avez voulu arrêter, vous avez eu un moment de doute? Ou est-ce que vous êtes resté ancré et vous vous êtes dit que vous deviez le faire pour votre famille?
Non, mais j'ai jamais lâché. Moi, j'ai jamais lâché. J'en ai, bien sûr que j'ai douté. Bien sûr, et surtout les gens autour de moi m'ont fait douter. Mais moi, j'ai jamais lâché. Parce que après, tu sais ce que tu veux, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est de passer au-dessus de ça, je me rends compte qu'avec du recul, je suis fait un truc qui n'est pas si banal que ça, en fait. Parce que du coup, c'est pas si facile que ça de décrocher des produits. En fin de compte, c'est ça que je me suis rendu compte. Surtout au stade où moi j'étais arrivé, c'est pas si simple que ça. Donc je prends pas mon cas pour une généralité. Je suis pas à dire aux gens, mais tu verras, c'est facile. Non, c'est la première truc que je dois dire, c'est que tu vas trop galérer, quoi. Mais t'imagines même pas comment tu vas galérer. Mais bien sûr, faut commencer par ça. Parce que tu commences à dire à quelqu'un, mais tu verras, c'est cool, c'est génial. Puis que le mec il galère, il va te faire quoi? Il va te péter un ouette. Alors que là, moi, les choses sont cool. Les gens sont au courant dès le départ. La première chose que je leur dis, c'est, tu vas pas dormir. Tu vas péter un plomb, tu vas être irritable, tu vas pas être transpiré, tu vas perdre 10 kilos. Après, on en parle si tu veux. Mais on va commencer par ça, quoi.
Comment est-ce que maintenant, vous voyez votre vie après plus de 16 ans de sevrage, de ce que j'ai compris, comment est-ce que vous la voyez sans drogue, sans cocaïne et
avec un mode de vie? J'ai jamais été aussi bien que je suis maintenant, en fait. J'ai jamais été aussi bien de ma vie que je suis maintenant. C'est seulement maintenant que je recommence, 16 ans après, c'est seulement maintenant que je recommence à faire des rêves. Parce qu'en fait, quand tu te drogues, tu ne restes plus. Et moi, ça faisait des années, et c'est seulement depuis quelques temps que je recommence à faire des rêves. Ça m'a réveillé en pleine nuit, je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? Mais moi, je dis rien, t'as juste fait un rêve. Ah oh, merde, je ne me rappelais même pas à quoi ça ressemblait. Parce que c'est ça le problème.
Et du coup, qu'est-ce que ça vous apporte d'aller voir les jeunes à vous personnellement?
Moi, personnellement, ça m'apporte autant que j'en donne, c'est ce que je donne, en fait, tu vois, voilà, quoi. Moi, quand j'ai un jeune qui m'appelle, 6-7 mois ou 6-7 ans après pour me dire, j'ai complètement décroché, j'ai arrêté, machin et tout, je sais pourquoi je me suis levé, quoi. Voilà. Et j'en vois. Voilà. J'ai encore une maman qui m'appelait il y a pas longtemps, qui me dit, vous aviez raison, il fallait lui faire un petit peu confiance, il a complètement arrêté, maintenant il est parachutiste. Je dis, voilà, c'est cool, il a trouvé un autre moyen de s'envoyer en l'air.
Est-ce qu'il y a une population type qui consommerait de la cocaïne ou pas?
C'est comme pour le shit, c'est tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas un public type. Moi, je vois vraiment tout le monde. Moi, des jeunes que je vois, les parents sont ophtalmo, ils sont chirurgiens, sont gradés dans la marine, de la gendarmerie, rémistes, plaquistes, boulangers, pâtissiers, profs, pêcheurs, paysans, routiers. Mais moi, je vois tout, de tout. La culture n'a rien à voir là-dedans, l'intelligence n'a rien à voir là-dedans et la religion n'a rien à voir là-dedans. Moi, je vois de tout. Le matin, je peux témoigner voir un gamin dans un camp de manouche avec des parents qui n'ont même pas le RSA et le soir, je suis dans une villa à 500 000 euros avec des gens qui ont exactement le même problème avec leurs gosses mais qui n'ont pas du tout la même vie, quoi.
Est-ce que ça vous arrive de voir directement des parents ou que ce soit des enfants qui viennent vous voir par rapport à leurs parents?
Ah oui, ça, je le vois de plus en plus. De plus en plus. Moi, j'ai des gamins qui me voient, qui me font, moi, franchement, Kamel, ça va trop bien, mais viens chez moi, quoi. Pourquoi? Mes parents. Mais c'est une cata. Mais bien sûr, moi, je la vois arriver, cette génération de parents qui se prouvent malins, j'ai envie de dire ça, mais qui à consommer avec leurs gamins, quoi. Ces gens, ils sont dans le coup, quoi. Ils ont juste pas compris que quand ça va leur déraper, là, ils ont plus qu'ils pour pleurer leurs yeux pour pleurer, quoi. Parce que moi, franchement, j'ai trop du mal, hein. Quand t'as des gens que tout le monde ont été dire aux gamins que c'était génial de se défoncer, c'est génial de se défoncer parce qu'eux-mêmes se défoncent, le jour où il faut décrocher, coucou, quoi. Coucou.
Coucou.
C'est clair. La façon dont on présente des produits, c'est vachement important, hein.
Au risque de paraphraser Kamel, je pense que la cocaïne a une image trop nocive, mais dans un mauvais sens. C'est-à-dire qu'elle a une image de fête, et ce qui détruit bien la plupart des gens. Et voilà, au risque de faire trop durer cette chronique, je vais terminer ma chronique en remerciant Kenna de m'avoir accompagnée sur cette chronique et en remerciant Kamel de son intervention qui a vraiment été, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a arraché une larme ce mercredi matin-là. Ouais.
Eh bien, merci Aurore. Maintenant, on passe à un sujet un peu plus soft avec le jeu Vectrum que va nous présenter Joss.
Alors, Vectronome, pas Vectrum. Alors, jeu vidéo sorti en 2019, Vectronome est sûrement mon jeu vidéo préféré de l'année, enfin de l'année dernière. Ce qui est sûr, c'est que son gameplay est l'un des mieux exploités. Je sais, c'est compliqué d'en parler, mais je vais essayer. En gros, c'est comme The Crypt of the NecroDancer. Ouais. Ça vous aide certainement, mais bon. C'est un jeu de rythme où lors de chaque pulsation, il faut faire une action. C'est d'ailleurs le seul moyen de passer certains niveaux. Bon. J'espère que vous avez l'idée en tête, parce que là, on va ajouter le fait que c'est un jeu de plateforme en 3D isométrique. Bon, j'arrête de manipuler vos pensées pour m'occuper de vous les bourrer d'informations. Le jeu a été distribué par Arte, le studio de développement qui s'est occupé du jeu, et Lupodium. Je vous assure, c'est pas là que vous allez monter après avoir fini le jeu. Oui, je sais, il y a que Arte que vous connaissez. Mais bon, on peut essayer de vous donner envie d'y jouer, ce serait déjà bien. Le gameplay que vous avez compris, enfin j'espère, est hyper bien. Un sentiment de joie que vous allez avoir tant le gameplay va vous surprendre par une lucidité qui nécessite pour passer les patterns. Bon, les patterns sont les chemins prenables souvent prévus par le jeu et les nerfs seront à vif et vous devrez vous lancer dans une grande concentration. Le jeu assez rapide et ouah, quelle claque. Les musiques sur lesquelles le cube que vous contrôlez va danser, entre guillemets, sont excellentes. Là, vous entendez justement une. Et nécessite une réelle écoute pour avoir les patterns. Perso, vu que je me lance dans le speedrun de jeu, qui est une activité qui consiste à finir le plus rapidement le jeu, j'écoute constamment ces musiques, dans leur ordre d'apparition. Comme ça, j'ai le rythme dans la tête, et moi je me laisse assez rapidement bercer par la musique. Et puis, vu que je me lasse rapidement des musiques, bah pour une fois, là ça va. Bon, on peut facilement s'écouter toute l'OST plusieurs fois par jour, sans même le moindre problème. Trop bien, j'ai réussi à finir sur le gameplay et introduire le deuxième thème, à savoir les musiques. Bon, comme je le disais, pas facile de s'enlacer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux tempos de musique dans le jeu, à savoir un rythme 4 temps et un rythme 3 temps. Les reconnaître est assez aisé, mais il suffit de s'habituer trop souvent au rythme 4 temps pour faire des erreurs stupides. Donc, méfiez-vous. Bon. Ce jeu n'est pas très connu, ça vous en conviendrait, mais bon, je veux réellement vous donner envie de jouer au jeu. Donc, comme dit précédemment, la musique est très importante. Spécialement créée pour ce jeu, oui, il a une official soundtrack originale. C'est l'essentiel pour l'immersion dans le jeu. Les musiques sont toutes dans un style électro très poussé et elles fonctionnent très bien. Je vous conseille d'aller jeter un œil aux musiques disponibles dans vos réseaux sociaux préférés. Comme ça, si vous jouez au jeu, vous pourrez bien mieux comprendre les patterns du premier coup. Petit aparté sur les patterns pour Monsieur Guilhem. Il l'a quand même bien mérité. Bon, soyons le plus bref possible. Les patterns, soit les différents mouvements ou directions à prendre pour finir un niveau, sont définis par les différentes plateformes des différents niveaux. Dans ce jeu, c'est assez fréquent que les patterns soient assez similaires dans le même niveau. Donc, parfois, on peut rager pendant des heures à essayer de passer un niveau, alors qu'au final, il suffisait de faire la même chose dans le sens inverse. Ce qui est assez frustrant, je vous l'assure. Mais bon, revenons-en au fait. Ce jeu représente pour moi à merveille le jeu vidéo indépendant. Et s'il aurait eu plus de budget ou une plus grosse communication commerciale, aurait rencontré un succès plus grand et les critiques se seraient mis à l'idolâtrer. Mais le sort en fut tout autre. Et c'est moi qui suis là pour vous en parler. Et c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et au revoir.
Merci Joss. Un peu de musique avec l'harmonie de Mende et un entretien de Diane avec Eric Parra, chef d'harmonie de la ville de Mende.
Alors bonjour Eric Parra, voulez-vous bien vous présenter s'il vous plaît?
Bonjour, donc Eric Parra, je suis directeur de l'école départementale de musique de la Lozère. Et également depuis 2017, chef de l'harmonie de la ville de Mende.
D'accord, merci. Alors, qu'est-ce qu'une harmonie exactement ?
Alors, une harmonie, comme toutes les autres appellations d'orchestre, correspond en fait à une instrumentation. Donc, l'harmonie, c'est l'ensemble qui regroupe des instruments de la famille des bois, des cuivres et des percussions. Donc on peut citer évidemment en comparaison les autres, comme la fanfare où il n'y a pas de bois, que des cuivres ou des percussions, l'orchestre à cordes, l'orchestre symphonique qui mixe un peu le tout avec des cordes, des bois, des vents et des percussions. Voilà, donc ça correspond vraiment à une instrumentation très précise.
D'accord, et après peut-il quand même y avoir d'autres instruments pour y jouer ?
Alors, c'est venu un petit peu avec le temps. D'abord, si on peut éventuellement faire un brin d'histoire, ça va nous amener à la réponse. Les harmonies sont nées un petit peu au XVIIe et XVIIIe siècle, quand les compositeurs ont eu le besoin d'avoir des formations susceptibles de jouer en plein air. Donc on sait que les cordes, par exemple, ben ça, c'était pas possible, c'était pas assez sonore. Donc il y a eu des grandes pièces écrites pour des vents, des cuivres, même si les instruments étaient différents à l'époque. Mais c'est un peu la genèse de l'harmonie. Après, au 18e, fin 18e et 19e siècle, il y a eu tout un mouvement, ce qu'on appelait le mouvement orphéonique en France, et pour contrecarrer un petit peu avec le conservatoire de Paris, qui a été instauré par Napoléon, qui avait pour vocation de former les musiciens aux cérémonies officielles et aux défilés, on s'est retrouvé avec un mouvement complètement populaire et festif, où chaque mairie, chaque région a instauré une harmonie pour les musiques de rue, pour les défilés, pour les musiques en kiosque, etc. Donc c'était souvent rattaché soit à une usine qui avait son harmonie, soit à une mairie. Mais en tout cas, il y avait ce domaine, ce besoin populaire et festif pour jouer dehors. Ça a été très important. Donc, au fil du temps, les répertoires ont un peu évolué. Et quand dernièrement les ensembles ont incorporé dans leur programme de la musique moderne, donc on trouve des répertoires avec un peu de jazz, un peu de musique de film, de la variété, un peu de pop. Là, ont été incorporés souvent des guitares basses ou des guitares ou des claviers. Donc, en fait, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est le mauvais goût. Voilà. Après, on peut se retrouver avec des autres instruments, mais en soliste invité. Donc, il existe des pièces pour harmonie et guitare, pour harmonie et cordes des Alpes, harmonie et chant, ou accordéon. Voilà. Mais ils viennent, ils font pas vraiment partie de l'orchestre, mais ils viennent jouer au piano. Et ils viennent jouer en soliste, généralement. Avec les harmonies. Donc maintenant, il y a plus de limite à incorporer des autres instruments.
D'accord. Et donc du coup, par exemple, pour votre prochain concert, allez-vous avoir des instruments un peu du style ou simplement vous arrêtez à l'harmonie classique ?
Alors, vous me tendez la perche. Alors, cette année, en guise de programme, on a décidé justement d'ouvrir un concert qui va s'appeler L'Harmonie et ses amis, qui nous permettra d'avoir en soliste un accordéoniste pour un tango, des chanteurs pour un extrait de la Traviata, une violoniste pour la méditation de Thaïs, il doit me manquer quelque chose, et les cors des Alpes pour un morceau spécialement écrit pour ces instruments, accompagné par une harmonie. Donc voilà, on ouvre un petit peu aux grandes familles des musiciens, mais ce qui compte, c'est pas forcément les instruments, mais plutôt la musique que l'on va produire. C'est quand même plus important.
Et alors du coup, dans cette harmonie demande, quelles sont les personnes qui en font partie ? Est-ce que c'est simplement des musiciens professionnels ou y a-t-il d'autres personnes ?
Alors je vais rejoindre ce que je disais tout à l'heure, les harmonies sont nées d'une vocation populaire et on a gardé ça, c'est-à-dire c'est le milieu associatif, le tissu associatif et amateur qui s'est emparé de ces ensembles. Donc on se retrouve avec souvent des ensembles et des associations où on trouve peut-être la plus grande mixité parmi l'ensemble des associations qui peuvent exister. C'est là où on a une mixité intergénérationnelle. Mixité sociale, évidemment, la mixité amateur, musicien professionnel, milieu urbain, milieu rural, homme, femme. Donc c'est vraiment peut-être le plus grand mélange qu'on puisse trouver dans une association. Donc ça, c'est quand même assez remarquable. Et un monde, nous sommes dans la moyenne normale, avec quelques professionnels, notamment les enseignants de l'école départementale de musique, mais la plupart des musiciens sont des musiciens amateurs. Alors attention, le terme amateur, je le prends moi comme un tissu économique, c'est-à-dire on vit de la musique ou on n'en vit pas. C'est pas un gage de niveau bon mauvais, hein. C'est vraiment, il faut surtout pas se résoudre à ça. Et on trouve notamment l'harmonie de monde des musiciens amateurs, mais qui ont vraiment un très très bon niveau instrumental.
Et alors du coup, vous êtes chef d'harmonie. Y a-t-il une différence d'une avec un chef d'orchestre et quelle est réellement l'utilité d'un chef d'harmonie? Parce qu'on se pose souvent la question.
Alors ça, c'est une grande question, un grand mystère. Beaucoup de personnes se demandent, mais qu'est-ce que fait cette personne? Et en plus, tourner, on montre le dos, je m'arrêterai au dos, au public, on est complètement tourné. Et on est le seul musicien qui ne joue pas. En fait, on n'a pas d'instrument. Mais en fait, c'est un rôle déterminant qui peut se caser en deux phases, en fait. Alors, il n'y a aucune différence entre chef d'harmonie, chef symphonique, c'est vraiment l'orchestre qu'on a devant soi qui détermine, ou chef de chœur. Donc, on a deux rôles. Le premier se dessine lors de la première phase des répétitions, notamment, où on met un peu tout le monde en musique. Donc, on est là pour expliquer l'interprétation que l'on désire, pour indiquer les tempos, les vitesses, les ralentis, les pauses, les respirations. Donc, on met un peu tout le monde en phase, en sachant que le chef d'orchestre est le seul à avoir la partition de l'ensemble des musiciens, alors que chaque musicien n'a que sa partie devant les yeux. Donc nous, on a un rôle de coordination, et on corrige les défauts, on assure les bons rythmes, les bonnes notes, on corrige, etc., jusqu'à que la pièce, petit à petit, ressemble à ce qu'elle doit être lors du concert. La deuxième phase, pour moi, c'est le concert. Parce que là, le travail est fini. On n'a plus le droit de parler, chose qu'on fait pendant les répétitions, évidemment, quand on arrête l'orchestre, pour indiquer une correction effectuée, ou pour expliquer ce que l'on veut. Le jour du concert, c'est trop tard. Et là, on n'a que nos bras, et pas seulement nos bras, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dos au public, mais face aux musiciens. On a les bras, mais on a aussi le regard. C'est un outil extrêmement important, parce que le regard participe à l'interprétation que l'on veut donner. Et le jour du concert, on est là pour donner le meilleur de la pièce au service de la pièce et du compositeur qui l'a écrite. Et on est là pour sublimer le musicien. On y arrive plus ou moins selon les jours, évidemment. Mais voilà, c'est comme si on avait un petit peu... une table de mixage devant nous, et par nos gestes on monte un petit peu à droite, on monte un peu à gauche, on baisse, on descend, on met tout le monde d'accord, ce qui fait que les pièces sont tout le temps différentes le jour d'un concert. Si on a trois concerts avec la même pièce, il peut avoir des tempos qui changent un petit peu, des ralentis qui sont pas identiques, mais la musique est un art vivant. Donc le chef d'orchestre là a un rôle de fédérateur pour dynamiser l'ensemble des musiciens et rendre heureux et les musiciens, mais essentiellement le public qui vient là pour nous écouter.
Et alors du coup là, quand vous parlez de votre que vous avez toutes les partitions de chaque musicien, c'est-à-dire que vous avez la partition de chaque musicien, comment se présente ça devant vous?
Alors on a une partition celle des musiciens contient ligne par ligne. Nous, on a l'ensemble des lignes. Donc, c'est une page, c'est une ligne, en fait. Donc, c'est un métier. Parce que ça s'apprend, hein, évidemment, à lire l'ensemble des lignes. Ça peut arriver qu'on ait 30 lignes à suivre en même temps. Donc, après, c'est un travail... à effectuer. Alors, je disais tout à l'heure, on est là pour expliquer notre interprétation. Ça signifie que, en amont des premières répétitions, il faut avoir travaillé sa partition sur une table, sur un bureau, comme ça, juste avec les yeux, et son oreille interne, pour savoir ce que l'on veut faire de la partition. Il faut arriver devant l'orchestre en connaissant sa partition. Et l'ensemble des notes et des rythmes que doivent effectuer les instrumentistes qu'on a devant soi. Donc voilà, c'est aussi un travail qui est en amont, mais qui est essentiel. Évidemment, l'interprétation ou le choix de l'interprétation se fait pas la veille du concert en général. Hein. Et il vaut mieux l'avoir dans la tête un petit peu avant.
Du coup, combien de fois vous produisez-vous par an environ?
Alors l'harmonie de monde, c'est un peu à l'opportunité, selon les années et les demandes, on a entre 5 et 8 concerts, grosso modo. Selon les programmes, si on va jouer à l'extérieur, si on redonne plusieurs fois chaque programme, plus la fête de la musique, ou des événements qui se passent dans le département où on nous sollicite pour venir jouer.
Et jouez-vous avec d'autres harmonies?
Alors ça arrive évidemment que ça rejoint un petit peu le côté populaire dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire on cherche à faire des échanges parce que c'est toujours très enrichissant de rencontrer d'autres musiciens, on est là pour faire de la musique ensemble et c'est toujours très convivial de se rencontrer. Alors à Mende, on travaille assez souvent avec l'harmonie de Haute-Lozère ou l'harmonie de Langogne. Et c'est toujours très riche parce que un échange et une convivialité au service de la musique, évidemment.
Et mais justement, l'harmonie de, il y a des membres de l'harmonie de Haute-Lozère qui participent à celle de Mende et également, enfin pareil pour Langogne.
Et inversement, donc voilà, certains musiciens participent aux activités de plusieurs harmonies, ce qui est très intéressant et. Et très bien, ça montre une solidarité musicale, artistique dans le département. C'est vrai qu'on n'est pas historiquement un département très ancré dans la musique d'harmonie, comme on peut trouver dans le Nord, dans le Sud-Ouest, ou dans les Savoies, où chaque village son harmonie, son école de musique, etc. Alors, j'ai prononcé le mot école de musique, je reviens un petit peu en arrière. C'est au moment de la création de milliers de chorales et d'harmonies au 19e siècle qu'on a trouvé le besoin en fait de former les gens, et donc les écoles de musique se sont mises en place et créées pour former les musiciens pour aller jouer dans ces harmonies, ces ensembles. Après, les écoles de musique se sont développées au 20e siècle, mais au départ c'était vraiment pour alimenter les rangs des ensembles.
D'accord. Bon, alors maintenant, côté pratique. Si demain, quelqu'un a envie d'aller, donc votre prochain concert, c'est le 21 mars, c'est ça?
Tout à fait. Alors, on joue le 14 mars au Collet de Dez. Et le 21, on se produit donc à la maison, Théâtre de Mende, à 20h30, le samedi 21.
Et alors du coup, comment on fait? Il faut réserver en ligne? Combien ça coûte, une place environ?
Alors les concerts sont totalement gratuits, ouverts au plus grand nombre. C'est une raison pour laquelle on a un programme très éclectique pour essayer d'attirer et de donner complaisance au plus grand nombre de gens possible, au public qui viennent nous écouter. Donc il n'y a pas de réservation particulière, il suffit d'aller au théâtre un petit peu avant pour trouver une bonne place.
Bon, alors on tâchera de faire ça. Alors pour ce concert, vous avez décidé de reverser la moitié de vos recettes à l'UNICEF. Alors pourquoi avoir choisi cette association? Et avez-vous l'habitude de participer à des associations, à des organisations, en leur reversant de l'argent?
Oui, c'est aussi une des actions que l'on effectue assez régulièrement, non pas pour financer les associations, parce que c'est vraiment une petite contribution dû à ce que les publics nous laissent dans les fameux chapeaux, qu'on reverse pour contribuer un petit peu aux causes qui sont des causes toujours importantes, évidemment. On l'a fait dernièrement avec la Ligue contre le cancer. Là, on va le faire avec l'UNICEF, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc, c'est intéressant pour nous aussi d'avoir une double mission artistique, mais aussi de pouvoir contribuer, pas aider, mais contribuer comme ça à partager avec des causes mondialement connues et reconnues, et malheureusement qui ont de plus en plus de travail. Alors comme je suis un grand amateur de football et un grand fan du Barça, je rappellerai que c'est le seul club au monde qui paye pour avoir une marque sur le maillot. qui est l'UNICEF. Donc alors là, c'est un peu, ils ont passé de devant à derrière, mais je crois que ça va revenir parce qu'ils donnent des fortes sommes d'argent à l'UNICEF pour porter la marque sur le maillot. C'est quand même assez exceptionnel. Normalement, c'est le contraire.
D'accord. Bon, ben merci beaucoup, Eric.
Merci à vous.
Et passez une très bonne journée.
On va essayer.
Diane, tu pourrais nous apporter quelques précisions sur ce qu'on vient d'entendre. Comme peux-tu nous expliquer brièvement ce qu'est l'UNICEF, qu'est-ce qu'elle défend et comment et où?
Alors on va faire un petit retour en arrière. Alors déjà, bon, l'UNICEF, ça veut dire donc the United Nations of the International Children's Emergency Fund. Donc c'est en gros un fonds qui a été impulsé par l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies. Ça c'est ce que je ne savais pas. En 1946, après la Seconde Guerre mondiale, pour venir en aide à tous les enfants victimes du coup du conflit. Alors maintenant, l'UNICEF vise à aider dans tous les pays. Donc je crois qu'il est présent dans 157 pays. Et donc voilà, c'est pour un peu aider tous les enfants pour différentes raisons, pardon. Donc des vaccins, contre le sida, l'éducation, voilà.
D'accord. En quoi consiste ton rôle en tant jeune ambassadrice à l'UNICEF? Et quelles sont les conditions, les modalités pour le devenir?
Alors, pour devenir jeune ambassadeur UNICEF, c'est extrêmement simple. Il faut simplement aller sur un site jeune ambassadeur UNICEF, il me semble. On envoie 10 euros à l'UNICEF. Et donc, on a notre participation pour l'année. Et alors, en quoi consiste notre rôle? Quand on est dans des endroits où c'est assez facile pour impulser des projets, bon, en Lozère, c'est un peu plus compliqué, mais quand c'est un peu plus simple, voilà, c'est d'impulser des projets pour alors soit essayer de récolter de l'argent, soit pour faire connaître cet organisme, voilà.
D'accord. Le 22 mars a lieu la journée de l'eau. Peux-tu nous en dire plus sur cette journée?
Alors oui, en fait, et après je vous expliquerai du coup le lien avec l'harmonie. La journée de l'eau, ça a été donc une journée c'est une journée en fait qui est internationale déjà, en fait à peu près tout ce qui est en rapport avec l'eau, donc l'accès à l'eau potable, la salubrité de l'eau, voilà. Et donc du coup cette année, donc l'UNICEF chaque année supporte un projet. Et cette année, c'est sur les enfants à Madagascar. Parce qu'alors, il faut savoir qu'ils ne sont pas très bien lotis par rapport à l'eau. Il y a environ un enfant sur deux qui n'a pas accès à l'eau potable, ce qui est quand même assez énorme dans un pays. Voilà. Et il y a énormément, par exemple, d'écoles qui n'ont pas d'eau potable. Voilà. Donc, cette année, l'UNICEF va décider de financer ce projet, donc sous l'égide de la journée de l'eau. Et alors, en fait, l'harmonie demande, là, mon rôle en tant que jeune ambassadrice UNICEF, j'ai demandé à l'harmonie s'ils acceptaient de reverser un peu de leur fonds à l'UNICEF, donc pour cette journée-là, ce qu'ils ont accepté, voilà.
Eh bien, super, merci. Pierre, toujours dans tes mangas, qu'est-ce que tu as aujourd'hui à nous raconter dessus ?
Oh bon dieu de merde, je suis enfin revenu. Vous pouvez pas savoir à quel point le temps a semblé long, pour moi c'était interminable. Bon, durant ces moments d'exil, j'ai découvert des tonnes de choses passionnantes, évidemment en particulier des séries passionnantes, dont je vais faire de mon mieux pour vous pousser à en profiter vous aussi. Mais bon, passons maintenant à mon choix du mois, Minuscule, ou de son nom original, Minuscule ou de son nom original, Akumai to Mikochi. Excusez-moi pour la prononciation complètement dégueulasse, je parle pas japonais. Minuscule est, au départ, un manga écrit et dessiné, comme c'est souvent le cas pour les mangaka, par Takuto Kashiki, et édité en France par les éditions Komiku. En France, justement, la série compte à ce jour 6 tomes et un qui va paraître cette année, si mes souvenirs sont exacts. La série, après la parution de 5 tomes en France, s'est vue obtenir une adaptation en animé au plus grand plaisir des fans, desquels je fais partie évidemment, comment vous croyez que je puisse dater l'adaptation aussi précisément? Mais bref, passons maintenant au cœur de notre sujet, qu'est-ce que Minuscule? Eh bien, êtes-vous familier avec un genre de manga et d'animé nommé Slice of Life? Sinon, et de toute manière j'aurais légèrement douté que vous le soyez, eh bien c'est très simple. Le Slice of Life dépeint tout simplement le quotidien de ses personnages, pas de super pouvoir extravagant, pas de fil narratif ni d'aventure à suivre. Il ne s'agit ni plus ni moins que de suivre les mésaventures et la vie quotidienne des personnages de l'histoire. Évidemment, vous vous doutez bien que je ne vais pas m'arrêter là. Et c'est en vous donnant raison que je vais de ce pas vous expliquer ce qui fait toute la qualité de Minuscule et les raisons pour vous de regarder cette série. Tout d'abord, Minuscule est une série dotée d'un univers original et d'une grande richesse. En premier lieu, dans ce monde, les humains sont minuscules. À peine de la taille d'un grain de riz qu'on aurait fait tenir debout. Les protagonistes, Akumei et Mikochi, n'échappent pas à la règle et habitent d'ailleurs dans une maison creusée dans le tronc d'un chêne. De plus, dans ce monde, les animaux parlent et habitent même dans la même société que les hommes, donnant lieu à des endroits, des histoires et des personnages tous plus originaux et attachants les uns que les autres. Ensuite, la qualité graphique. Minuscule est une série qui va vous éblouir par son dessin et son animation, incroyablement fidèle à l'œuvre originale, malgré le rythme et le coût de production typique des animés. Un des meilleurs exemples que je puisse vous offrir pour appuyer mon propos est la nourriture. Je m'explique. Cherchez sur internet des images des repas de cette série et vous aurez très vite l'eau à la bouche tant l'aspect des plats est si bien créé par le style de dessin et la palette de couleurs utilisée. Et bien entendu, cela ne s'arrête pas là. Les personnages sont si colorés, si bien pensés et si bien dessinés que c'est tout leur caractère qui ressort dans leur seul design. Tant et si bien qu'on finit par vouloir les prendre dans nos bras tant ils sont sympathiques. Et enfin, un point que je trouve fantastique, parce que on trouve vraiment peu d'animés qui aient ce point fort-là, c'est que cette série est réellement tout public. Elle est parfaitement adaptée à un jeune public, car absolument aucune trace de violence et les quelques situations qu'on pourrait désigner comme effrayantes sont, à vrai dire, très abordables, même pour de très jeunes enfants. Et de plus, son atmosphère est si enchanteresse que même des adultes se prennent à prendre part aux aventures quotidiennes des personnages. Voilà, c'était Minuscule, un chef-d'œuvre de l'animation japonaise que je vous conseille très vivement de regarder.
Eh bien merci Pierre, ça a l'air très intéressant. Justin, t'as un truc à dire ?
Eh oui, j'ai quelque chose à présenter aujourd'hui. Bien le bonjour à mes auteurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière avec Gabriel, on parlait souvent de musique ensemble. Mais bon, il est parti jouer au jazz, au Blue Note, du coup maintenant j'ai dû recruter parmi des milliers de demandes, et j'ai recruté Erin. Bon bref, tout ça pour dire qu'on va parler de musique, qu'on va faire des références à Gabriel dans cette chronique. Donc c'est à toi, Rinou, vas-y, balance le son.
Arrête de dire n'importe quoi. Allez, c'est parti. Depuis à peu près 2 siècles, on s'interroge souvent sur ce que va être la musique de demain, mais avec les nombreuses évolutions musicales, on se pose de plus en plus de questions sur ce que va être le style de demain. Quels sont et quelle musique pour les années 2000 ? Voilà une question qu'on a pu se poser. Donc, dans cette rubrique, on va vous parler des différents styles musicaux de notre ère, plus particulièrement le Lofi. Donc,
le Lofi est un mouvement qui consiste principalement à recréer un feeling d'un vieux vinyle ou d'une vieille cassette audio sur des instruments hip-hop à la sonorité plutôt mélancolique. Ce mouvement s'est développé depuis quelques années, notamment au travers des applications SoundCloud et sur YouTube. On peut l'écouter en travaillant, en mangeant ou en dormant. C'est une ambiance assez calme et nostalgique. De plus en plus de rappeurs se posent sur ce genre d'instrumental, comme Tentation avec Jocelyn Flores.
Musique.
Bon, toi qui t'y connais le plus en technique, je vais te laisser un peu parler. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le Lofi ?
Ah, merci Justin, c'est vraiment sympa. Donc, techniquement, le Lofi, c'est un sample, donc un échantillon musical, qui tourne en boucle avec une rythmique lente et des bruits de grisement. Le sample provient la plupart du temps des instruments de jazz, comme le piano, le violon. C'est un classique notamment dans le hip-hop. Le Lofi tire sa naissance du chill-hop, donc une instrumentale chill de hip-hop, représentée surtout par Nujabes, un artiste fondateur.
Waouh ! Merci la technicienne du son. Donc pour en revenir au Lofi, les artistes sont très influencés par les Japonais, comme dans leurs vidéos postées sur YouTube, où ils reprennent des animés comme Naruto ou encore des dessins animés du style des dessins animés du studio Ghibli, comme Mon voisin Totoro ou encore Le château ambulant. En dégradant le son et en ajoutant des bruits de pluie, de vinyle, ça donne l'impression d'écouter une vieille cassette. C'est ce qu'on appelle dans le domaine le low fidelity.
Donc en soi, le lofi, c'est une sorte de musique nostalgique, c'est ça ?
Yes, c'est ça, t'as capté. Ça permet vraiment de créer un moment posé, comme si on écoutait un vieux vinyle à l'époque des dinosaures. Quand on écoute du lofi, on n'en écoute pas un seul morceau, c'est pas comme le rap. On en écoute pendant des heures et on peut pas l'écouter n'importe quand, ni n'importe où, ni n'importe comment.
Du coup, je suppose que c'est pour ça que nous, les ados, on kiffe ça.
Ah, très perspicace la nouvelle. Du coup, c'est ça, il y a plusieurs raisons. Ça permet de se détendre avec un rythme lent de 80 BPM, assez répétitif, souvent sans parole, complété de petits bruits de craquement et de petits bruits de pluie. Ça donne une sensation d'ASMR qui nous détend et nous projette dans un espace calme et serein.
Trop chiant! C'est impossible d'être énervé sur ce genre de son.
Mais non, ça nous met dans un état assez spécial qui s'appelle la nostalgie. Ça nous rappelle des années, des moments qu'on a vécu avec des personnes il y a très longtemps.
Ah, c'est pour ça que c'est indissociable des vidéos. Sur YouTube, par exemple, on voit souvent c'est des vieux dessins animés comme Tom et Jerry ou La Panthère Rose, tout ça. Du coup, go devenir dépressif. Donc, merci à tous d'avoir creusé vos neurones pour cette nouvelle émission. Merci aussi à nos auditeurs de toujours être là pour nous écouter. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Moi, je dois y aller, j'ai un casting à passer.
Jean-Antoine, il est l'heure de te lever. Jean-Antoine, il est l'heure de te lever.
Chaptime.
Chaptime.
L'interview du jour.
Actualité.
Biais d'humeur.
Revue de presse.
Micro couloir.
Alors, c'est compliqué à définir pour le coup.
C'est possible que les jeunes aient plus de vocabulaire que nous autres.
Ça veut rien dire.
Quelque chose de d'inouï, dont on trouverait difficilement le terme.
Je sais pas moi.
On en apprend tous les fois
que je le connais, mais je suis pas sûre.
Non, c'est ridicule, pardon.